Le roi des rois, de Nathalie Wyss, lu par l'auteur aux éditions Manière Jeunesse, dans la collection Presto. Il regardait dehors, comme toujours. Je l'ai vu qui guettait par sa fenêtre cassée de partout par laquelle on voyait plus tant elle était sale. C'était toujours de là qu'il guettait ma venue, depuis sa case, sa baraque. Ébloui par le soleil, ses yeux mi-clos apparaissaient au cœur du verre brisé. Le soleil étincelle toujours chez nous, les hindous, nous, les indiens, les tamouls. Shiva m'attendait. On avait du pain sur la planche. On avait des balles à lancer, à courser, à rattraper. On allait crier, taper, transpirer pour notre criquet éternel, celui qui nous faisait vibrer et nous transportait. J'ai vu ses yeux noirs me chercher. Il s'inquiétait vite, le gosse. Dès que je dormais ailleurs, dès que j'avais 3 chapatis de retard, il flippait comme un bébé. Des chapatis, aujourd'hui, je lui en devais au moins 10, une grande première. Les chapatis, c'était notre truc, notre jeu. Chapardeur de chapatis, voilà ce qu'on était. Il est sorti en boitant. Ça lui arrivait parfois de boiter pour un oui ou pour un non, le matin au réveil, suivant comment il avait dormi. J'adorais ces journées-là. Un régal, un délice. « Shiva le boiteux !» je criais. « Shiva le galeux !» Bon, la gale, on savait bien ce que c'était. On les voyait, ces chiens crevés au bord des routes, au milieu des routes. Ces chiens dégueux qui tremblent et se grattent et grattent encore. Bon sang, à quoi ça sert ces bestioles, ces puces qui sautent et qui grattent? À croire que les chiens peuvent pas être heureux? Jamais. Quand on les voit comme ça, sans poils, sans plus aucun poil, tout rose, tout boursouflé, plein de bourrelets, de peau malade et gratté jusqu'au sang, on se dit qu'on voudrait vraiment pas être à leur place. Shiva pensait que les clébards se mettent au milieu des routes pour crever. Je le crois. Qui voudrait passer sa vie à se gratter? Pas moi. Pas Shiva. Pas nous. Des fois, ils arrivent à se faire tuer. Mais parfois, ils le font mal, ils se ratent. Et alors là, c'est pas du joli. Des bassins de traviol, des pipis incontrôlés, et j'en passe. Dans ces moments, je gueule sur les mecs en bagnole. Tuez-le! Achevez-le, quoi! Ce sera bon pour votre karma! Moi, j'avais rien que ma batte pour les achever. Ma batte vieille de 1000 ans au moins. 1000 ans qu'on l'usait, qu'on la frappait, qu'elle nous accompagnait. Je pouvais décemment pas achever un de ces clébards avec. Je suis qu'un mioche, moi. C'est pas comme si on avait de nombreux avantages, nous, les gosses des rues, nous, les chiens des rues. Shiva m'a frappé très fort dans l'épaule. Dès qu'il me voyait, il faisait ça. Alors je l'ai frappé à mon tour, plus fort. Plus c'était fort, plus on se marrait. J'adorais Shiva quand il crachait ses boyaux à cause de moi. Déjà, il sortait la batte. « Ouais, je boite, la ferme !» J'avais encore rien dit pourtant. Shiva disait venir de la lune. Je le crois toujours. Même quand il racontait que sa mère c'était la femme d'un maharaja et que son arrière-arrière-grand-mère était la femme du type qui a construit le Taj Mahal. Je le crois toujours. Il a frappé la balle très fort. Il boitait, mais purée ce qu'il envoyait. La poussière s'est soulevée en un rideau aveuglant. Shiva a fermé les yeux. À mon tour de courir. Mes pieds nus ont martelé le sol brûlant. J'ai couru et couru et foulé le tas de déchets qui bordaient la route depuis toujours. Tout a volé en éclats, effrayant les poules et les poussins qui étaient venus manger là. Les oiseaux se sont mis à crier, et moi aussi, pour mieux rattraper la balle. J'étais crispée. Je voulais pas la perdre. Je l'ai eu, c'est bon, je l'avais. Shiva a applaudi en riant. J'étais étalée dans les ordures et la volaille revenait à la charge. C'était moi que les poules picoraient maintenant. « Combien ce matin ?» J'ai râlé aussitôt. « La ferme, Shiva. »« Combien ?» il a répété. J'ai râlé d'autant plus. « Ok, 10, je te dois 10 chapatis. » Il a ricané. Alors je lui ai lancé la balle en faisant bien gaffe de viser sa petite tête de tamoul. Et oui, on comptait. C'était comme ça. On volait de tout avec Shiva. Mais notre truc à nous, c'était les chapatis. On les chapardait et on les dévorait. On les volait pas pour soi, non, jamais. On les volait pour l'autre. Moi pour Shiva et lui pour moi. 10 de plus qu'il m'en avait filé l'autre. Chez nous, les klaxons naissent avec le soleil, la fumée noire des voitures, des scooters et des rickshaws. La pollution monte, comme la chaleur. Son zénith sonne à midi avant de retomber peu à peu à hauteur des chevilles. Shiva avait une planque et une vieille tente. Moi, j'avais rien que Shiva et la planque de Shiva. C'était une sorte de baraque de tôle et de ferraille qui tenait debout par je ne sais quel miracle. À l'écart d'un terrain vague, elle était plantée contre un arbre tordu aux allures de martyr. Ce qu'il s'y passait, beaucoup le savaient, et plus encore ne voulaient pas le savoir ou le voir, un peu comme nous, avec Shiva. À l'intérieur, deux longs couchettes de train éventrés occupaient tout l'espace. C'était Shiva qui les avait trouvés dans la décharge 2 kilomètres plus loin. On avait sacrément ramé pour les rapporter sans se faire dévorer par le soleil. Mais c'était le grand luxe de dormir là-dessus. Mieux, il n'y avait pas. La tente de Shiva était trop grosse pour y tenir allongée. Son coin à elle, c'était le fond de la case, par terre, sur un tas de tapis. C'est là qu'elle était la plupart du temps, étalée de tout son long et de tout son gras. En fin de journée, quand, comme le soleil, on commençait à fatiguer, on allait faire la sieste sur les couchettes avec Shiva. Fallait pas faire de bruit, surtout pas, parce que la grosse tente dormait à point fermé. C'était pas encore l'heure de bosser pour elle. Pour ça, il fallait qu'il fasse nuit noire. Je m'allongeais toujours sur la couchette de droite. Souvent, avant de fermer les yeux, je regardais Shiva. J'étais encore tout essoufflée et tout excitée de savoir que j'allais dormir peinard sur ma couchette adorée. J'avais envie de me marrer, moi, en voyant la grosse tente dormir bouche ouverte, ventre et bourrelet à l'air. Mais sous la ferraille, Shiva n'était jamais d'humeur à la rigolade. Tout ce qui était lié à la grosse tente le rendait maussade. Pour s'endormir, il entortillait ses doigts dans la mousse blanche qui sortait de sa couchette. Geste qui me rappelait qu'un jour, Shiva avait été un enfant. Je sais bien qu'on n'était encore que des mioches. Enfin, surtout moi. Mais la vie qu'on menait avait fait de nous des grands. Il y avait de ça longtemps déjà. Lorsqu'il y avait un peu de vent, les branches de l'arbre balayaient doucement le toit de tôle. Je me sentais protégée et caressée par elles. Les nuits de grand vent, c'était tout l'inverse. La tôle était battue, fouettée, j'étais minuscule et la peur grimpait le long de ma colonne vertébrale. Bien sûr que j'avais peur. La peur faisait entièrement partie de moi. Le lendemain, l'arbre était à nouveau ami et compagnon, celui qui veillait sur ma super couchette. Quand la vieille recevait, quand tout tremblait, on se barrait loin avec Shiva. Ailleurs, sur les toits. C'était bien les toits. On n'y était jamais seul. Il y avait tous ces singes qui chahutaient partout, qui gueulaient, criaient, copulaient. Alors les gens ouvraient les fenêtres et gueulaient plus fort encore. Moi, j'adorais ça, tout ce boucan. Ça m'aidait à m'endormir, parce que le silence me retourne le ventre. Mon souffle s'accélère, comme ça, pour rien. La peur monte, monte, monte. Elle est forte, dévorante. J'explose et je tombe, je perds le fil. Respire, respire, il faut que je respire. Quand Shiva s'endormait avant moi, c'est là que ça me prenait, le plus souvent. Faut dire qu'il avait un sacré don pour ça. Quand c'était trop dur, je le réveillais. Il ronchonnait pas, Shiva, jamais ou presque. Il me faisait une blague pourrie, me forçait à grimper aux arbres, me tapait dans le dos, crachait sur mes sandales, et mon esprit s'oubliait un instant. Parfois, on passait des nuits de dingue à regarder les étoiles, à rigoler pour un oui ou pour un non. On s'endormait qu'au petit jour, juste au moment où les singes se réveillaient, et tous ensemble, on admirait la danse des cerfs-volants à l'orée du ciel. Shiva comprenait que dalle à mes délires, à la peur qui m'étouffe avant de dormir, et pourtant, lui seul pouvait la faire fuir. À croire qu'il savait ce que c'était que de toucher le fond de la peur, quand on croit que plus jamais on refera surface, quand on croit que la lumière est partie pour de bon. C'était tout Shiva, ça. Il n'y avait rien de faux en lui, rien de fourbe. Il volait, bien sûr, comme moi, mais on le faisait pour vivre, pour pas mourir de faim, mourir d'ennui. Parfois on volait les touristes, ceux qui portaient des sacs à dos sortis tout droit de l'espace, du cosmos. Ils nous mataient jamais trop, les Blancs, les Occidentaux. Ils avaient trop peur de choper la tourista. Alors qu'est-ce que vous faites là, hein? Barrez-vous avant qu'on revende vos appareils photos. Moi, j'avais rien contre eux. Je les aime bien, au fond. Ils savent pas ce qu'on vit ici. Bien sûr, ils la voient, la misère. Elle est là, sous leurs yeux. Mais ils la touchent pas. Ils la vivent pas. Elle reste en dehors, au loin, là-bas. Ils le voient, ce mec hagard, à poil, se faire dessus, debout, au milieu du carrefour. Il la voit, cette vieille femme inerte en chien de fusil sur le trottoir inondé de soleil. Il la croit morte et l'enjambe pour avancer. Nous, on sait qu'elle reprend vie tous les soirs. Shiva m'a sorti de mes songes. Il a changé de place. À mon tour de frapper la balle. On jouait loin de la case de Shiva. Pour lui, la vraie vie était ailleurs. Il attendait qu'une seule chose, avoir assez d'argent pour qu'on se barre loin, très loin, à Varanasi. La ville qui depuis toujours faisait briller ses pupilles. Varanasi, le lieu où crever, le lieu où tout oublier. C'est Shiva qui voulait aller là-bas. Moi, ce que je voulais, c'était suivre Shiva. Alors, un lieu sacré, pourquoi pas? Aux quatre coins de notre terrain de jeu, on avait planté des panneaux de bois sur lesquels notre ami Ganesh avait écrit pour nous « Terrain privé ». Et ça marchait. Les gens y croyaient. Jamais personne ne venait ronfler sous notre arbre, à part les sages bien sûr, qui régnaient ici en maître. Longé par une route bondée, impossible à traverser, notre étendue de sable était le lieu idéal pour jouer au cricket. Le lieu idéal. Au milieu de notre terrain, poussait un arbre immense. Ses branches, qui tombaient sur le sol comme des larmes, transformaient les rayons du soleil en petits diamants insaisissables. C'était notre parasol à nous, naturel, gigantesque. Et croyez-le ou non, mais notre arbre avait un trou à la place du cœur, un trou béant où étaient cachées nos roupilles. C'était tout ce qu'on avait pour le jour où on partirait à Varanasi. C'était pas grand-chose, ça cassait pas la baraque. C'était l'argent qu'on avait gagné chez le barbier et la grosse tante de Shiva. La pauvre était si grosse qu'elle pouvait rien faire toute seule. On faisait ses courses, on lui coupait les cheveux. Shiva lui coupait même les ongles des pieds pour 2 roupies. Moi, j'aurais jamais pu faire ça. Enfin, pas pour 2 petites roupies. Pour 5 ou 6, pourquoi pas. Malgré tout, elle nous sauvait souvent la mise, la grosse tante de Shiva, pour pas dire tout le temps. Quand elle avait faim, elle criait pour qu'on lui prépare à manger. Et, en contrepartie, on pouvait bouffer nous aussi. Mais pour ça, on sortait devant la case. On préférait le sable et le vent chaud. On préférait les gaz de tous les pots d'échappement du monde plutôt que de la regarder manger. La seule chose qu'elle faisait sans nous, c'était recevoir. Et elle en recevait du monde, un tas de monde. Des vieux, des jeunes, des laids, des beaux, des riches, des pauvres, tout. Tout passait dans sa case et celle de Shiva. Shiva ne disait jamais rien de mal à son sujet. On savait bien ce qu'elle trafiquait pourtant, mais on n'en parlait pas. Il essayait sûrement d'oublier les cris qui faisaient trembler sa case. On grimpait souvent tout en haut de notre arbre avec Shiva, jusqu'au jour où je suis tombée aussi fort qu'une noix de coco. Shiva a hurlé comme un fou depuis sa branche, entouré de singes qui s'épouillaient. Et puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans les bras de Shiva qui suait comme une mangue en plein cagnard. Il courait entre les bagnoles, soufflait fort et me secouait dans tous les sens. Shiva me portait comme un bébé. J'ai pensé alors que personne ne m'avait jamais tenu comme ça, à bout de bras. C'était bien. Si bien que des larmes m'empêchaient de voir Shiva, qui se concentrait pour avancer dans la foule. Est-ce que j'allais mourir? J'ai fermé les yeux. J'aimais être ballottée comme ça. 4 à 4. Shiva a grimpé des marches avant de pousser de l'épaule une lourde porte. Le ciel bleu avait disparu, les buildings et les fils électriques aussi. Plus qu'un long couloir blanc, frais, et des visages inquiets le long des murs, puis le noir à nouveau. Je me suis réveillée entourée de gens qui dormaient sur des lits identiques aux miens. Mes poignets étaient décorés de tuyaux et ma jambe droite étouffait sous un plâtre. Des affiches de prévention recouvraient les murs avec écrit en gros « Ne tuez pas vos filles ». Des fillettes souriantes, des ventres ronds et des nouveau-nés illustraient le message. Et puis il est arrivé, en catimini. J'ai vu sa petite tête de tamoul apparaître derrière un rideau blanc. Il m'a fait un grand sourire. J'étais vivant et Shiva était là. Alors tout irait bien, c'était certain. Il s'est approché de moi, a posé un doigt sur ses lèvres pour me dire de la coincer. Il a ôté les tuyaux de mes poignets comme s'il l'avait toujours fait, et m'a soulevé doucement. On s'est barré en riant. Ma jambe plâtrée a frappé 2-3 épaules dans le long couloir. Ça m'a fait un mal de chien, mais je n'arrêtais pas de rigoler. Pur risque, on était con. Pur risque, c'était bon. On n'avait pas les sous pour payer avec Shiva. Une commotion et une jambe cassée nous éloignaient de Varanasi de plusieurs années. Valait mieux la jouer finot. Je grimpe plus aux arbres depuis. Sûr que Shiva continue, lui, toujours plus haut. Alors voilà, j'ai lancé la balle, comme je le faisais depuis 1000 ans. J'ai lancé la balle. Fort. Trop fort? Je sais pas. Je sais plus. J'ai plus jamais rien su après ça. Shiva a détalé comme les pros à la télé, en faisant bien gaffe d'éviter le tas d'ordures. Il a couru vite et surtout trop loin. Il s'est retourné pour attraper la balle, et là, d'un coup, il a sauté en l'air comme un oiseau. Shiva volait. S'était-il transformé en super-héros? Sa jambe boiteuse était-elle faite de ressorts, de métal? Était-il devenu un robot? Tout était au ralenti. Le bruit et les cris ne sont venus à moi que bien plus tard. Je voyais la balle, notre vieille balle, puis Shiva, puis le camion coloré, puis la balle et encore Shiva, mon Shiva qui volait dans le ciel. Une gamine s'est mise à crier, un chien a aboyé, la vieille inerte sur le trottoir s'est redressée et les klaxons ont tout couvert, comme la poussière. Je sais pas combien de temps Shiva a plané. Longtemps, très longtemps. Puis, il est retombé sur le sol, notre sol à nous, celui qu'on piétinait depuis 1000 ans, celui sur lequel on pissait, crachait, chiait même parfois. À quel moment il l'a retouché? Quand? Quand les chiens ont commencé à se bagarrer? Quand le mec à vélo est tombé? Quand je me suis mise à hurler? Les ordures ont giclé, les bouteilles en plastique, les coquilles d'œufs fragmentées, les chaussures esselées, tout a volé, même les poulets. J'aurais dû courir. Courir pour voir si mon ami Shiva avait le bassin déglingué. Courir pour voir s'il pouvait encore pisser. J'ai pas bougé. Peut-être pour regarder les visages tout autour, les déchiffrer. Comprendre avant de savoir, avant de voir. Shiva, Shiva, lève-toi du con! Je me suis égosillée sans bouger. Plus les secondes passaient, plus les gens s'agitaient. Rien à faire. Shiva ne bougeait pas. Soudain, ils se sont tous retournés vers moi, l'ami fidèle de Shiva. Moi, haut comme 3 pommes, les pieds nus, le visage sale. Même les singes, même les poulets me regardaient droit dans les yeux. Même eux attendaient que je réagisse, que j'avance et vois ce que personne au monde ne veut voir. Tout s'est figé. Les rayons du soleil, la fumée des pots d'échappement, le temps, tout. J'ai traversé notre terrain de jeu. J'ai frôlé le tronc de notre arbre, celui sur lequel toutes nos parties de cricket étaient gravées, un tronc large comme plusieurs pieds d'éléphant. J'ai avancé sous les regards avides de tous ceux qui traînaient aux alentours, le marchand de beignets, le mec à vélo, le lézard posé sur l'entaille de notre partie en cours. J'ai marché jusqu'au panneau qu'on avait planté un peu de travers et qui disait « terrain privé ». La jambe de Shiva n'avait en fait rien de bionique. Elle ressemblait plutôt à celle des chiens galeux, ceux qui ont une patte tellement tordue qu'ils la poussent plus sur le bitume. Shiva était là, étendu au pied de notre super panneau. Sa tête était face contre terre, en plein dans le tas d'ordures, celui qui finirait plus tard dans les rivières poubelles qui puent à des kilomètres. C'était là-dedans que mon ami avait la tête enfouie, un peu comme les porcs qui fourrent leur nez et leur bouche partout là où il faut pas. Shiva était comme ça. Comme ses porcs. Il ne bougeait toujours pas, et plus je le regardais, plus ses membres me semblaient bizarres, pas à leur place. Encore un coup de super-héros, ça. J'ai pas cru les visages, l'inquiétude, les appels au secours. J'ai pas cru les sirènes, les lumières qui clignotaient presque invisibles sous le soleil. Moi, je croyais Shiva, et Shiva se taisait. C'était forcément une de ses blagues foireuses. Alors j'ai rendu ma peur aux gens qui nous dévisageaient, et j'ai ri en flanquant un petit coup de pied à mon ami. Non mais, nous faire une peur pareille, franchement. Mon coup de pied, c'était du vent, un bide. Mais bon, Shiva savait très bien faire le mort. On avait des années d'entraînement tous les deux. Des fois, il jouait tellement bien le macabé que j'étais obligée de lui planter les doigts dans le nez pour le faire rigoler. J'allais leur dire de se calmer à tous ces flippés et aux ambulanciers. J'allais leur hurler de rentrer chez eux et surtout de ne pas pénétrer sur notre propriété. Ils ne savaient pas lire? Ce panneau, là, il servait à quoi? Terrain privé, c'était bien marqué? Mais le sang a coulé. Ça vient de sa bouche, a dit une petite vieille collée contre moi. J'ai alors pensé que Shiva n'avait pas fourré son visage dans la merde, tout ça juste pour me faire marrer. Et puis, s'il l'avait pu, il se serait levé et leur aurait montré le panneau en criant « Vous savez pas lire ?» À l'instant où je suis tombée par terre, à cet instant-là, exactement là, je suis mort moi aussi, mort avec Shiva, le roi des rois, qui venait tout droit de la lune. Tout aurait aussi bien pu s'arrêter là, exactement comme Shiva derrière sa balle. Pourquoi continuer? Continuer quand on perd tout. Quand on perd la vie dans sa poitrine, on fait quoi? On continue? Alors je suis partie. Partie pour plus voir cet arbre sur lequel il était écrit Shiva en grosses lettres. Partie pour plus voir notre terrain privé et ce sable sur lequel Shiva avait tant transpiré. Partie pour plus voir le trou que notre arbre avait à la place du cœur. Moi aussi j'avais un trou en plein milieu de la poitrine. Un trou gros comme la lune sur laquelle Shiva dansait peut-être en ce moment même. Partie pour plus voir cette planque et cette vitre brisée. Partie pour plus voir la couchette de Shiva et la mousse dans laquelle il rêvait parfois. Partie pour plus voir cette racine devant sa case, celle qu'on devait toujours éviter pour pas tomber. Partie pour plus voir sa grosse tente qui bâillait aux corneilles. Partie pour plus voir notre quartier, ce vendeur de fruits, ces immeubles en ruine, cette mendiante qui cramait au soleil. Partie pour oublier nos buildings. Partie pour plus ressentir ce vide-là. Partie pour te chercher et te suivre, Shiva. J'en reviens toujours pas que tu m'aies fait ça. Comment t'as pu me laisser là? Comment t'as pu courir si loin, si vite, pour une balle? La lune te manquait à ce point? Tu m'aurais dit, j'aurais trouvé un moyen. On aurait volé des sacs de touristes cosmonautes et on aurait foncé droit vers la lune, mais ensemble cette fois. Tout ça pour une partie de cricket? Je savais bien qu'il te montait à la tête ce jeu. Tout te montait à la tête, vite, trop vite, comme les bières fauchées qu'on sifflait en riant. La vieille a moins ri. La tante, la grosse tante. Elle a voulu me refaire le portrait. Elle a hurlé que c'était de ma faute, que tout était de ma faute. Ma faute. C'est pas vrai, hein, Shiva? C'est pas de ma faute si, comme les chiens galus, tu t'es foutu au milieu de la route. Si t'as surgi devant ce camion. On peut survivre au milieu de la route. Regarde, les vaches, elles crèvent pas. Ok, elles sont sacrées. Mais toi, tu t'appelles Shiva. T'es plus fort et plus puissant que n'importe quel Maharaja. Mais alors, partir, où? Où t'es, Shiva? Où tu veux que j'aille? Aussitôt, j'ai su. La question ne se posait plus. Varanasi. C'était là que j'allais me rendre. Là que j'irais pour Shiva, pour moi, pour le criquet, pour les chiens galeux et les vitres cassées. C'est exactement là où j'irais pour sauver son âme, pour sauver mon âme. Varanasi. 8 lettres. Ma vie allait changer pour 8 lettres et des milliers de kilomètres. J'ai regardé droit devant et j'ai avancé, sans plus penser, sans plus respirer. Sur le chemin, j'ai vu le vieux Ganesh et son échoppe à roulettes. Il vendait du chai à la pelle, il en écoulait des hectolitres par jour. Pour nous, c'était le meilleur de tous, le plus sucré, le plus chaud, tellement qu'on se brûlait les doigts à chaque fois. Au début, on lui en fauchait en un tour de passe-passe, mais avec le temps, Ganesh a fini par nous connaître et même nous apprécier, je crois. Il m'a tendu un petit verre en plastique pas plus grand qu'un dé à coudre et a demandé sans me regarder. « Il est où ton poisson pilote ?» J'ai baissé les yeux sur ses sandales. Mon ventre était noué et douloureux. C'est là que ça faisait le plus mal. Et plus haut aussi, vers le cœur. Exactement vers le cœur. Je me souviens plus du chakra qui loge là. Ni même des autres d'ailleurs. Mais je sais que si on en prend soin, on peut guérir. Guérir. Est-ce qu'un jour ce mâle rongeur d'organes partirait? Avec des chakras qu'on voit même pas? Alors c'est vrai, il me restait la prière. Je pouvais parler aux dieux et leur demander de me faire oublier, de me donner un nouveau cœur, un nouveau souffle et un nouveau cerveau, tiens, où Shiva n'existerait pas. Un cerveau qui arrêterait de ressasser l'accident en boucle, encore et encore, sans jamais au grand jamais se lasser. Le corps tordu, les pieds nus et sales de Shiva, la balle qui retombe, les ordures. Alors oui, les dieux, je voulais bien un cerveau neuf. Parce que si j'étais arrivée à la case de Shiva avec seulement 5 minutes de retard, ou si je lui avais demandé de venir faire les poubelles du vieux milliardaire avec moi, le camion fou serait passé et rien ne serait arrivé. Shiva est retourné sur la lune, j'ai répondu. Au fond, ma voix criait. Je vais crever sans lui, c'est sûr. Le soleil tapait ma nuque. Il tapait sur ma tête aussi, à coups de massue, comme Ganesh, sans même l'avoir voulu. J'ai pas levé les yeux. J'ai continué à fixer ses pieds secs et abîmés. Ça m'a paru durer des heures, si bien que je connaissais bientôt par cœur la taille de ses ongles, leur couleur et là où ils étaient inégaux. Alors, pour la première fois de sa vie, Ganesh s'est interrompu. Il a posé sa passoire, il a saisi mon menton de ses doigts épicés et l'a relevé. Qu'est-ce que tu racontes, petit ? J'aurais voulu hurler, pleurer, lui dire que c'était la faute du camion fou. Mais j'ai rien dit. J'ai fini le chai, le si bon chai. J'ai balancé le verre sur le goudron bouillant et je suis partie en courant. Je t'entendais derrière moi qui criait mon nom. Je t'entendais rire et me dire de revenir. Ta voix était encore là, bien là dans mon esprit. Alors quoi ? Un jour elle s'en irait, elle aussi ? Allez, reviens, fais pas le con, tu me disais. Tu vas te perdre. Arrête, reste là, reste ici, chez nous. Mais j'ai continué tout droit, vers la route où Shiva s'était envolé, celle qu'on n'avait jamais pu traverser. C'était notre frontière à nous. On avait essayé, souvent, pour voir, pour se marrer, pour s'occuper. Mais cette route était infernale, impossible à franchir sans mourir. Des fois, on jouait à ça. On essayait de la traverser sans crever. C'était un jeu un peu stupide, c'est vrai. Et pour tout dire, on n'était pas hyper doués. On passait des heures assis à l'ombre de notre arbre à guetter. On n'a jamais vu personne la traverser. Parfois, certains essayaient, en vain, avant de repartir résignés. Cette route séparait notre monde du reste du monde. Ce qu'il y avait derrière, on le devinait. Des buildings et des buildings qui se battaient entre eux. La gare et ses trains qui hurlaient. Des gens partout, partout, par milliers. Est-ce que cela nous faisait peur ? Est-ce que c'était la peur qui nous retenait ? Bien sûr, la peur nous tenait tous à la gorge. Notre coin, c'était la planque de Shiva et la rue aux échoppes qui menait à notre terrain de jeu avec notre arbre millénaire au milieu. Notre coin était en ruine et simple comme un signe de main le matin, mais je l'aimais. Y rester sans Shiva, c'était crever. Si je ne partais pas, j'allais finir par me coucher près de la mendiante que les touristes croyaient morte. J'allais m'allonger près d'elle et pleurer, jusqu'à ce que le soleil me tue pour de bon. Mais aujourd'hui, c'était décidé. J'allais la traverser, cette fichue route qui avait coûté la vie de mon bel ami. J'avais pas la trouille. Ok, j'avais pas le fou rire coincé dans la gorge. J'avais pas des éclats de rire plein les joues et les oreilles. Je survolais pas la terre de bonheur comme quand on essayait, avec Shiva, de passer entre les bagnoles à moitié folle. J'avais les pieds bien sur terre, cette terre qui m'avait pris mon ami à moi. J'étais en colère. J'aurais pu la trouer de mes pieds, cette fichue terre. J'aurais pu les soulever de mes bras, ces foutus camions qui klaxonnaient comme des abrutis. J'aurais pu arrêter toutes les voitures qui couraient sur le goudron. J'aurais pu hurler, là, en plein milieu, et les faire s'arrêter, toutes, sans aucune exception. Tous mes nerfs étaient tendus en un bloc. Ma nuque était raide, ma mâchoire serrée, mes poings fermés. J'ai posé le pied sur la route et j'ai avancé, sans regarder ni à droite ni à gauche, en fixant devant moi une ancienne brisée qui brillait autrefois dans la nuit. Les klaxons se sont jetés sur moi, des pneus ont crissé et tous se sont arrêtés, pour moi, presque les uns sur les autres. Pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés pour toi, Shiva ? Un rickshaw bondé a manqué de me shooter. J'ai craché un bon coup en arrière et j'ai continué. J'étais de l'autre côté maintenant, à l'ombre des buildings. Celle scintillante de notre arbre allait me manquer. En route pour la gare, je m'éloignais du monde connu. Je quittais nos vendeurs de bijoux, de coca, de dosa, nos vendeurs de journaux et de bananes. Je quittais ta case, ta baraque. Je quittais nos toits adorés, ceux qui donnaient sur la vieille ville et ses maisons basses, ces toits habités et colorés où les enfants jouent au cerf-volant par milliers. Je quittais nos jeux dans le sable. Je quittais le barbier et Lakshmi, le vieux milliardaire. Je quittais le cœur de notre arbre qui avait renfermé toutes nos richesses. Je te quittais, toi, Shiva, toi, le roi des rois. Bientôt, j'allais être complètement perdue. Au fil de mes pas, la peur gonflait dans mon ventre. C'était toujours de là qu'elle venait. Petit à petit, elle se dispersait, montait. Plus elle montait et plus je tanguais. La peur choisissait, la peur décidait. J'étais son pantin sans plus personne pour me donner la main. La gare ressemblait à une fourmilière, comme celle qui, au bord des routes, forme des châteaux gigantesques. Des familles entières attendaient par terre, en plein soleil. J'ai traversé une longue parcelle en fer truffée de marches pour aller sur la voie 2. Pas de train sur les rails, pas encore. Rien que des déchets, des rats longs comme mes bras et l'odeur de merde et de pisse qui me brûlait la gorge. Combien de temps me restait-il ici, chez nous? Un quart d'heure? Une heure? Deux heures? Combien de temps j'avais avant de perdre tous mes repères? Pas eu le temps d'y penser. Tout le monde s'est levé. Le train a fait danser la poussière dans la lumière du soleil. Le train était bleu, bleu clair et bleu marine avec des barreaux pour les pauvres et des vitres teintées pour les autres. Moi, j'étais pauvre, si pauvre qu'on me jetterait sur les rails une bonne centaine de fois avant que j'atteigne Varanasi. Combien de temps ça allait me prendre? Des jours? Des semaines? Des mois? Une vache s'est arrêtée devant moi. Les gens se pressaient aux portes, à toutes les portes. Des vendeurs ambulants s'arrêtaient devant les fenêtres pour vendre à boire et à manger. Des femmes passaient dans les wagons avec des sacs d'oranges sur la tête. Ceux qui avaient encore de la route sortaient pour se dégourdir, acheter de l'eau, cracher, fumer, respirer. J'ai esquivé la vache brune qui semblait me dire de rester et je suis montée dans le train bondé. J'allais tout tenter pour toi, Shiva. Tout ce que j'aurais jamais osé tenter sans toi. Je te devais bien ça. Les vendeurs ambulants hurlèrent plus fort, plus vite. « Chai-le-le, chai-le-le, coffee, coffee, coffee !» Le tout dans une mélodie accordée. Dernier coup de sifflet. J'ai avancé dans le couloir, les yeux rivés sur le sol bleu. Comme le train, comme les couchettes. Les mêmes couchettes que chez Shiva. Bleu les murs, bleu les barreaux. Bleu comme le ciel où se trouvait mon ami en ce moment même. Pas de place. Je suis restée entre deux wagons, dans le couloir. Près des portes et des toilettes. Le train a filé, vite, loin et longtemps. Je vous ai lu la première moitié du livre. Maintenant, c'est à vous de poursuivre le voyage.